Le point.
Les Contrariantes, un podcast bimensuel dédié à l'échange d'idées présenté par le magazine Le Point avec
Peggy Sastre
et Laetitia Strauch-Bonnard. Dans la première partie de cette émission, nous discutons des 20 ans de Loft Story. Puis dans la seconde, nous accueillons la journaliste Gabrielle Dédier. Bienvenue chez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Une émission où toutes les deux semaines, Peggy Sastre et moi-même commentons l'actualité puis débattons avec un invité. Bonjour Peggy.
Bonjour Laetitia.
Notre sujet du jour, Love Story à 20 ans. Il y a 20 ans, le 26 avril 2001, M6 lançait son adaptation du succès international Big Brother, né aux Pays-Bas. 11 célibataires coupés du monde dans un loft de 225 mètres carrés, filmé 24 heures sur 24 par 26 caméras et 50 micros. Au bout de 70 jours, il n'en restera que deux. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. Voilà comment l'émission se promouvait. Le succès est d'emblée phénoménal. En mai 2001, selon un sondeur, 95% des Français ont déjà entendu parler de Loft Story. Près de deux tiers d'entre eux ont déjà regardé l'émission. Un autre sondage révèle que sur les 3,5 millions de Français qui ont un accès Internet au bureau, 500 000 se sont déjà connectés au site de Love Story. Ils passent en moyenne 9 minutes de leur temps de travail quotidien à regarder la vie des lofteurs. Des lofteurs qui, à leur sortie, entrent dans un tourbillon médiatique et accèdent à la notoriété. Pour quelle raison? Tout simplement pour avoir été dans le loft. Une jeune femme crève l'écran. Elle s'appelle Loana. Elle ressemble à une héroïne de conte de fées. Une jeunesse un peu chaotique, une vie pas très rose. Avec sa plastique de starlette, elle est gogo danseuse dans des bars pour gagner chichement sa vie. Une scène de sexe dans la piscine avec Jean-Édouard, puis la victoire à l'émission font d'elle une nouvelle Marilyn. Le loft avait tout pour déplaire et même choquer. En tout cas, l'intelligentsia. Il a suscité à l'époque de nombreuses critiques tout à fait justes, dénonçant la big brotherisation volontaire des candidats et le voyeurisme des téléspectateurs, l'avènement de la société du spectacle et la vacuité d'une société qui vénère de façon tautologique les gens célèbres, non parce qu'ils ont accompli des actes qui justifient la renommée, mais parce qu'ils sont célèbres. Mais d'un autre côté, le loft nous parlait de la France, des Français moyens, de leur culture, de ce qui les faisait rêver. Loana, à ce titre, a eu des paroles particulièrement touchantes. Elle qui avait 140 de QI, elle se sentait plus bas que tout. Quand vous parlez de vos études et de la fac et tout, qu'est-ce que tu veux que je raconte ? Lançait-elle alors sa concurrente. J'ai quitté l'école en seconde, je me promène en string sur des comptoirs, je suis toujours en bas. Quant à l'audience de l'émission, elle était particulièrement forte dans la petite classe moyenne, quand la bourgeoisie se pinçait le nez. C'est pourquoi je me demande si l'attrait pour la télé-réalité n'avait et n'a pas à voir avec les failles d'une méritocratie française toute scolaire, qui repose aujourd'hui encore plus qu'hier sur la capacité à avoir de bonnes notes à l'école et surtout qui tend à mépriser ceux qui prennent un autre chemin. Alors certes, les qualités requises pour remporter l'émission étaient ambivalentes. En choisissant Loana, cependant, c'est comme si les téléspectateurs avaient voulu offrir une vie de rêve à une fille paumée qui le méritait parce qu'elle était gentille et jolie. En se prononçant pour elle, ils reconnaissaient à la fois l'autre et le même, la bimbo au corps de rêve et la française ordinaire. Quand on compare la télé-réalité avec cette autre piscine de narcissisme que sont les réseaux sociaux, on éprouve presque de la nostalgie pour cette époque. Les réseaux ne sont même plus de la télé, ils sont notre réalité. Sur Twitter, on s'expose et on juge, on est à la fois dans le loft et téléspectateur du loft, et en plus on se croit très au-dessus des ploucs de Love Story. Alors voilà Peggy, c'est ce début de réflexion que je voulais partager avec toi sur cet anniversaire un petit peu particulier.
Ah bah c'est un début de réflexion mais quand même particulièrement dense. Quelle ficelle, non pas pour faire référence au string de Loana, vais-je pouvoir tirer ? Oui, c'est vrai, c'est très juste ce parallèle avec les réseaux sociaux actuels, surtout que, par exemple, moi, ça me fait penser à ce que dit Bret Easton Ellis dans son livre White, qui dit qu'en fait, avec les réseaux sociaux, on est tous devenus des acteurs dans le sens où on est tous, enfin tous, entre guillemets, hein. on contrôle beaucoup nos propos, justement, pour avoir de l'audience et tout. Moi, je me rappelle au début des réseaux sociaux, j'étais complètement déprimée parce que j'entendais des gens, enfin voilà, que je connaissais, des amis de loin et tout, qui me disaient oui, alors moi, je programme mes tweets pour que ça passe à telle heure, pour avoir le maximum d'audience. Et puis voilà, enfin, des gens qui étaient en plus même pas journalistes, mais qui se cassaient la binette, tu vois, à éditorialiser leur flux Twitter et tout. J'étais là, mais c'est pas possible, quoi. Genre, ça m'avait, et ça continue à me déprimer, ce genre de comportement. Mais effectivement, le parallèle avec la télé-réalité, et notamment comment est-ce qu'elle est apparue, donc voilà, il y a 20 ans, avec Love Story, où il y avait un côté vraiment frais. Voilà, c'était nouveau pour la France, même si Big Brother avait déjà quelques années. Il y avait aussi Survivor aussi. C'est vrai que moi, personnellement, voilà, je suis complètement tombée dans le truc. En plus, c'était à une époque où je travaillais, enfin, je travaille toujours, mais j'étais salariée, vraiment, j'étais à mi-temps dans un bureau et tout. Donc, c'était vraiment le truc que je regarde Love Story pour me détendre après ma journée de boulot et tout. Et moi, il y avait un côté comme je suis très asociale, on va dire poliment, que j'ai pas le rapport social facile. La télé-réalité, pour moi, c'était voir des gens vivre, mais sans, en fait, comme derrière une vitre. Enfin, il y avait un côté très sain, enfin, très hygiénique, en fait, pour moi. En fait, la télé-réalité, ça reste un oxymore. Hein. C'est un peu comme ce que dit souvent Tadei quand il dit qu'on ne peut pas faire d'information en temps réel, parce que l'information, voilà, ne se fait pas en temps réel. L'information, voilà, l'information, il faut du temps pour que les choses importantes, qu'il y ait un tri, entre guillemets. Donc voilà, et je pense que c'est pareil, il y a un oxymore sur la télé-réalité, c'est que ce n'est pas vraiment de la réalité, mais ça donne une impression de réalité, et c'est ça qui est séduisant, quoi. Et qui fait aussi, juste pour finir là-dessus, qui fait aussi que c'est des audiences très élevé, parce qu'il y a un côté très hypnotique dans la télé-réalité, quoi. Tu peux rester des heures, tu vois pas le temps passer, quoi.
Alors c'est marrant, parce que moi, au contraire, je n'ai jamais regardé Love Story, en fait, ni la télé-réalité. J'en ai juste vu des extraits, comme tout le monde. Mais je dirais que j'ai très peu d'intérêt. Enfin, je n'arrive pas à m'y intéresser. Mais je pense aussi que j'avais, surtout à l'époque, un point de vue beaucoup plus moral et moralisateur sur le sujet. Donc je trouvais ça assez choquant, très voyeur, très vulgaire. Et je pense que je me suis quand même un petit peu amendée avec le temps, en prenant un peu de distance, en étant un peu plus indulgente, je pense, vis-à-vis de... des autres, surtout des autres qui ne sont pas comme moi. Et donc c'est pour ça, aujourd'hui, je pense que j'ai un regard beaucoup plus détaché. Donc moi, je me sens un petit peu schizophrène, ce serait un mot très fort, mais ambivalente sur ce sujet. C'est-à-dire que personnellement, j'ai presque du dégoût, je dirais, pour ça. Et en même temps, j'arrive à comprendre pourquoi ça suscite tellement d'intérêt. Et c'est vraiment ça, cette dimension que je retiens, c'est-à-dire... comment un concept qui aurait pu ne pas du tout marcher, et dont on n'attendait pas grand-chose, en fait, hein, quand c'est arrivé en France, a connu un succès phénoménal. Et je pense que ça, c'est une donnée en soi, et ça veut dire beaucoup de choses. Alors, j'ai esquissé quelques pistes d'explications sociologiques. Je pense que ça compte. Et puis, c'est aussi ce que tu suggérais, Peggy, il y a quand même une dimension... psychologique, parce que même si ces gens se savent regarder, donc ils jouent quand même, ou ils jouent à ne pas jouer, mais il n'y a pas d'authenticité totale, c'est impossible, ils sont quand même dans une sorte de trivialité du quotidien, qui fait que, eh bien, ils sont nous, c'est-à-dire on se regarde comme dans un miroir. Et alors, on connaît la formule, hein, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console, et je me demande s'il n'y avait pas un petit peu de ça aussi dans le loft ou dans la télé-réalité, c'est-à-dire que à la fois on se voit soi-même et on se rend compte que les autres sont parfois tout aussi banal, ou qu'ils ont autant de problèmes que nous, ou qu'ils sont tout aussi enfin qu'ils ont autant de failles. Ça nous donne une leçon sur l'humanité, mais ça peut même nous aider à mieux vivre, parce que on se rend compte qu'on fait mieux de temps en temps. Donc moi, je pense qu'il y a aussi, comme tu parlais d'une expérience derrière une vitre, je me demande s'il n'y a pas aussi ça dans la télé-réalité, c'est-à-dire ce qu'on fait en fait tous les jours avec nos congénères. On s'observe, On se compare, je pense, très souvent, plus ou moins explicitement. Et là, en fait, il y avait une opportunité de le faire à heure fixe, tous les jours, avec des gens qui voulaient bien se prêter à l'exercice.
Oui, totalement. C'est très intéressant ce point de vue sur la psychologie et sur le fait. Et là encore, on peut faire un parallèle avec les réseaux sociaux, parce que souvent, les réseaux sociaux, enfin, il y a beaucoup d'études qui disent que justement, parce que les gens se mettent en scène, comme je disais tout à l'heure, le côté acteur, on se contrôle et tout, on met ce qui est, voilà, ce qui. Je ne sais pas, typiquement sur Instagram, les gens, ils font des photos de chez eux quand c'est bien rangé, quand c'est le mécan, c'est bien avec le ménage et tout. Donc voilà, ça donne. Voilà, il y a plein d'études qui montrent qu'il y a une sorte de dépression typique des réseaux sociaux, enfin en fait des consommateurs de réseaux sociaux qui justement voient chez les autres des versions idéalisées mais sans en avoir forcément conscience et qui par contraste, eux, se rabaissent, se disent « Ah voilà, je suis nul, ma maison elle est pourrie, mes enfants ils sont dégueulasses, je ne sais pas faire à manger, enfin genre de truc, mes vacances elles sont nazes. Voilà. » Voilà. Et effectivement, à l'inverse, dans la télé-réalité, une partie de l'intérêt, c'était peut-être justement ce que tu disais, le côté on se compare, mais en fait on se console parce qu'il y a le côté zoo humain. C'est quoi ces gros débiles qui ne savent pas parler, qui se sautent dessus à la moindre occasion, etc. Et justement, ce côté que la télé-réalité en fait met en scène, entre guillemets, le pire de l'humain, moi, ça m'a amusé parce que moi, j'y vois quand même, j'y vois une sorte de, en fait, de preuve empirique de l'inefficacité de l'utopie du panoptique. Le panoptique, c'était un type d'architecture carcérale qui a été imaginé par le philosophe utilitariste Jeremy Bentham et son frère aussi, Samuel Bentham, qu'on a tendance à oublier, donc à la fin du 18e siècle. Et voilà, très simplement, le concept, c'était que tout le monde se regarde, donc tout le monde se surveille. Enfin, c'était dans un contexte carcéral, donc c'était le gardien qui est logé dans une tour centrale et qui peut observer tous les prisonniers sans que eux, les prisonniers, savent sciemment qu'ils sont observés, mais quand même, ils savent qu'ils peuvent justement être observés à tout moment. Donc, selon Bentham, c'était un outil, voilà, de contrôle social et de civilisation. Enfin, comment dire, voilà, les gens allaient mieux se comporter en étant toujours observés. Michel Foucault, dans Surveiller et punir, en a fait des tartines. Comme quoi, voilà, c'était le symbole, le modèle abstrait, voilà, d'une société disciplinaire, du contrôle social, etc. Bentham avait de très grosses ambitions sur son panoptique, parce que là je le cite, il disait justement dans le panoptique qui date de 1780, la morale réformée, la santé préservée, l'industrie revigorée, l'instruction diffusée, les charges publiques allégées, l'économie fortifiée, le nœud gordien des lois sur les pauvres non pas tranchées mais dénouées, tout cela par une simple idée architecturale. Donc voilà, les grosses ambitions. Donc en gros, voilà, quand tout le monde se surveille, on se comporte mieux. Et dans la télé-réalité, voilà, c'est l'inverse. Les gens se lâchent complètement. Il y a une sorte de désinhibition. Voilà, la scène primordiale, c'est la scène culte de Loana et de Jean-Édouard dans la piscine, qui se sautent dessus dès les premiers jours de l'émission. Après, effectivement, voilà, il y a un biais de sélection. Les candidats sont forcément piochés parmi les plus narcissiques de la population. Moi, je ne sais pas. Enfin, si, je crois savoir ce que t'inspire l'idée de participer à une télé-réalité, mais moi, voilà, ça me file des suites d'angoisse. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant quand même de me dire qu'un modèle d'émission qui était très populaire, très entre guillemets bas de gamme de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, ont permis, voilà, d'exposer les constructions mentales d'un représentant de la haute bourgeoisie britannique du XVIIIe. Et voilà, en quelque sorte, exposer le rationalisme, mais dans un sens négatif, hein, comme a pu le critiquer Burke et d'autres, c'est-à-dire comme une pure construction intellectuelle, coupée de la réalité, où forcément tout se passe bien en théorie, mais dans la pratique, voilà, il y a du gras, il y a des choses qu'on n'avait pas prévues, et c'est pas du tout sûr que quand tout le monde se surveille, tout le monde se comporte mieux, quoi.
C'est vrai, mais il y a une différence qui est quand même que là, ces gens sont nus volontairement, alors que dans le panoptique, il s'agit d'une prison.
Tout à fait.
Donc les gens sont là, enfin, parce qu'ils ont commis un crime, donc ils sont plutôt là contre leur gré. Et justement, moi, ça m'amène à une interrogation sur les motivations qui peuvent faire qu'on a envie de participer à une telle émission. Et il y a eu beaucoup de commentaires à l'époque qui était très sévère sur les candidats du Loft en disant qu'il fallait vraiment, comme tu le dis, être particulièrement narcissique pour participer à ce genre d'émission. Et surtout qu'on avait vécu une forme de tournant anthropologique, puisque maintenant, les êtres humains étaient capables de vouloir s'exposer de cette façon. C'était quelque chose qu'on n'aurait jamais vu il y a plusieurs décennies. Et alors, je ne sais pas trop quoi penser de cette hypothèse, en fait. Moi, j'hésite entre deux positions. D'un côté, en effet, j'ai quand même l'impression qu'il s'agit d'un type d'être humain très particulier qui, finalement, n'a pas tellement conscience de la sphère privée, mais vraiment, ou de la sphère intime. Et ça, on peut vraiment se poser la question de savoir si ça ne correspond pas à une rupture. Et ça me fait penser à un excellent livre du philosophe américain Christopher Lash qui s'appelle « La culture du narcissisme ». Où lui, il voyait dès les années 50, 60, émerger aux États-Unis ce type très particulier d'être humain, en fait, dont le moi, en fait, a du mal à se distinguer de ce qui l'entoure, de son environnement. Et c'est intéressant, le narcissisme, ça n'est pas la même chose que l'égoïsme. C'est vraiment cette idée qu'on voit le monde comme un prolongement de soi, avec tous les effets pervers que cela peut induire. On peut vraiment se poser la question si l'ère de la télé-réalité, ça n'est pas la confirmation de l'avènement de ce type d'individu. D'un autre côté, et c'est pour ça que j'hésite, il faut aussi prendre en compte l'aspect technologique, parce que sans la technologie, donc en l'occurrence à l'époque, c'était vraiment le règne de la télévision et les débuts d'Internet, sans cette technologie-là, il serait absolument impossible de concevoir même ce genre d'émission. Donc on ne sait pas très bien comment nos ancêtres du 19e siècle auraient pu se comporter s'ils avaient eu accès aux mêmes outils. Peut-être qu'ils auraient été tout aussi excités à l'idée, enfin en tout cas une partie d'entre eux, à l'idée de se montrer dans leur quotidien le plus trivial. Donc je dois dire que là, je en tout cas pour l'instant, je ne sais pas quoi choisir entre les deux opinions.
Moi, je pense que je trancherais pour la seconde, dans le sens où ça a toujours existé et les gens narcissiques ont toujours trouvé un moyen de l'exprimer. Je ne sais pas, dans l'ancien temps, c'était les lettres, on publie ses correspondances, on publie ses journaux. Je crois me souvenir qu'il y avait beaucoup de petites paniques morales sur le fait que ah là là, tout le monde s'expose en publiant ses lettres et ses journaux. Voilà, qu'est-ce que c'est la fin de la civilisation. Il y a eu le même genre de discours avec l'arrivée de la photo. Encore une fois, ça a été et ça je pense que c'est lâche. C'est le changement technologique que peut-être a prévu à quelques années. Là, c'est l'arrivée de la vidéo. Voilà, des super 8 et tout, voilà, tout le monde se filme, les trucs, les gamins, les machins familiaux, les communions, les trucs. personne ne veut voir ça, pourquoi est-ce que vous filmez?
Oui, mais ça reste en famille.
Oui, ça reste en famille, mais il y a chez les gens justement les plus narcissiques, il y a toujours eu une envie de diffuser ça. Bah, typiquement le cinéma, les gens qui font des films sur leur vie et tout, il y a comment dire, les narcissiques trouvent toujours un moyen d'exprimer leur narcissisme. Et pour rebondir peut-être là-dessus, moi j'aime bien aussi la télé-réalité en l'envisageant comme des émissions qui formeraient, je sais pas, une espèce, comme un corpus, tu vois, d'anthropologie vulgaire, mais pas vulgaire dans le sens négatif du terme, juste non savante en fait. Moi, l'exemple que je trouve le plus fort là-dessus, c'est Koh-Lanta. Donc Koh-Lanta, c'est des gens qui doivent survivre sur une île, ils n'ont rien à bouffer, ils ont des tâches, des exercices à la con à faire, genre rester je sais pas combien de temps sur un piquet dans l'eau. Puis après ils votent, les candidats votent pour qui reste, pour qui part, etc. Donc Koh-Lanta, voilà, c'est quasiment jamais le très fort du début qui gagne en fait, parce que lui souvent très vite il est éliminé par des plus faibles qui se liguent contre lui. Et ça, c'est assez, pour moi, caractéristique de la vraie vie. Voilà, dans la vraie vie, t'as beau être le meilleur du monde, avoir tous les atouts pour réussir et tout, si t'as pas un tantinet de soutien social, ben, tu vas nulle part, quoi.
C'est très juste. C'est marrant ce que tu viens de dire. Ça me fait penser au livre et au film de Hunger Games. Je ne sais pas si tu les
tout
connais.
Tout à fait, ouais.
Où justement des jeunes gens qui sont choisis parmi ce qu'ils appellent les districts d'un royaume qui est complètement totalitaire sont envoyés tous les ans pour faire ces Hunger Games où en fait ils doivent s'entretuer, enfin survivre et donc s'entretuer puisqu'à la fin un vainqueur doit rester. Et c'est quand même assez vrai parce que dans ces Hunger Games il y a ce qu'ils appellent des careers, c'est-à-dire des jeunes qui s'entraînent par carrière en fait pour participer à ces jeux et d'ailleurs qui viennent des districts les plus riches. Et ce ne sont jamais eux qui gagnent. Enfin, en tout cas, ils gagnent de temps en temps, mais dans le film en question, dont l'héroïne est d'ailleurs très intéressante, interprétée par Jennifer Lawrence, dans le livre et dans le film en question, eh bien, ils ne gagnent pas, ils perdent souvent. Et ce sont alors non seulement les plus astucieux qui gagnent, mais les plus humains. Ce qui est une autre leçon. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça dans Koh-Lanta, si les plus humains et généreux gagnent à la fin, mais bon. Voilà, ça c'est la réalité, alors que Hunger Games, ça reste quand même une fiction. Et ce que tu dis aussi sur Koh-Lanta me fait penser au fait que, à mon avis, il y a quand même une évolution dans la télé-réalité. Ça montre que le genre se perfectionne d'une certaine façon parce que Love Story n'a duré que 2 saisons. Et d'ailleurs, la 2e saison a été un échec. Et certainement parce que les téléspectateurs se sont vite lassés. Donc ça montre quand même qu'il n'est pas tout à fait satisfaisant de regarder des gens confinés dans une maison, d'autant plus que nous sommes aujourd'hui tous confinés, et que le public a demandé d'autres choses, avec des aventures avec plus de substance. Alors Koh-Lanta, c'est pareil, je pense que je serais incapable de regarder plus de 2 minutes en plus. Ça se passe dans la jungle, c'est ça, dans ce genre d'environnement hostile, je pense que j'aurais peur de tout. Mais je peux comprendre que là, il y a quand même un petit peu plus de sens dans une telle aventure. Donc ça veut dire aussi que si on veut être optimiste, en fait, même un genre comme la télé-réalité a des sous-genres. Et que les sous-genres qui triomphent finalement, ce sont les plus complexes.
Pour finir cette discussion sur une petite anecdote, tu parlais aujourd'hui, on est tous confinés, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe la télé-réalité à l'heure de la pandémie? Mais c'est arrivé en fait en Allemagne. Il y avait des candidats de télé-réalité, donc c'était un Big Brother, donc l'équivalent du Loft en Allemagne, qui était coupé du monde depuis début février 2020, donc ils n'avaient pas vu arriver la pandémie. Et ils ont été informés de ça, je crois, fin mars. Et ça a été, voilà, ça a été comme dans les films, là, ça a été le truc. Genre, imagine, tu sors du coma et tu sais pas qu'il y a une pandémie. Après, ça s'est arrivé aussi. Il y a des gens qui sont sortis du coma et qui ont appris qu'il y avait une pandémie. Mais voilà, c'était cette anecdote un peu amusante. Qu'est-ce que ça fait la télé-réalité à l'heure de la pandémie, quoi.
Mais alors, comment ont-ils réagi?
Ah, très mal. Enfin, après très mal, c'est aussi pareil. C'est toujours, tu peux dire que les émotions sont exacerbées et tout, mais genre ils sont tous en train de chialer, ils sont en panique, quoi. Ce qui peut aussi peut-être un peu se comprendre, mais.
Oui, intéressant. Mais écoute, c'est le moment de passer à la contrariété.
C'est ça.
Du jour. Je commence.
Vas-y.
Alors, ma contrariété, elle est assez classique, ou en tout cas, je ne suis pas la seule à avoir été contrariée. Elle concerne une tribune qui a été publiée par 24 généraux qui ont tous quitté le service d'active, certains depuis des décennies, et par plusieurs centaines d'officiers, de sous-officiers et de militaires du rang. Alors, c'est un texte qui a été publié d'abord le 13 avril sur le site Place d'Armes et repris fin avril dans le magazine Valeurs Actuelles. Et alors, c'est un texte extrêmement alarmiste, hein, qui s'inquiète de l'islamisme, des hordes de banlieue, mais aussi d'un certain antiracisme, et qui sous-entend dans des termes quand même assez explicites, en fait, donc c'est pas vraiment un sous-entendu, que si la situation se tendait, eh bien, cela pourrait déboucher sur une guerre civile et que l'armée devrait peut-être même intervenir. J'ai été contrariée par plusieurs choses à propos de cette tribune que je trouve extrêmement choquante. La première contrariété que je voudrais souligner, c'est que je trouve qu'en fait, la réaction politique et médiatique n'a pas été assez forte. Alors bien sûr, à gauche, notamment à l'extrême gauche, hein, il y a eu énormément de critiques, mais elles sont attendues parce qu'en fait, ce qu'on critique, c'est surtout, comment dire, le sentiment que l'extrême droite agit derrière hein, ce genre d'initiative. Mais je m'attendais de la part de l'ensemble de la classe politique et notamment des médias à une réaction beaucoup plus forte parce que alors certes, il y a un côté un petit peu absurde, un peu grotesque hein, dans ce genre de tribune, mais en même temps, ça n'est pas anodin. Et donc, ce qui m'amène à ma deuxième contrariété, c'est-à-dire le contenu même hein, de cette tribune, mais la tribune elle-même, enfin le point de vue hein, qu'il a provoqué. Je trouve qu'en France, hein, on continue de voir dans le militaire une sorte de force d'intervention providentielle. Notre histoire l'a montré, hein, on s'est très souvent appuyé sur des militaires en temps de crise. Alors, on peut penser à Napoléon, à Philippe Pétain, à Charles de Gaulle. Il y a toujours, je trouve, dans la politique française et notamment hein, dans la politique du dernier siècle, ce sentiment qu'en fait, le militaire saura mieux organiser la société, saura mieux faire face à toutes les tensions et à toutes les difficultés que une démocratie et un parlement qui est toujours considéré comme pas assez actif, pas assez fort. Enfin, c'est toujours la même rhétorique. Et ça m'étonne qu'on ne voit pas en fait cet éternel recommencement, cette rhétorique martiale, parce qu'on sait qu'elle ne fonctionne pas. On a bien vu dans notre histoire que l'intervention des militaires ou des politiques qui sont d'anciens militaires est rarement un succès. Alors, on pourrait citer évidemment l'exception Charles de Gaulle, mais moi, j'ai bien envie de dire l'exception, parce que ça a bien tourné. J'ai l'impression qu'on veut faire de cette exception la règle. Donc voilà, moi, je suis assez inquiète, en fait, de ce genre de prise de position, de ce genre de propos, et je pense qu'il faut que la France se débarrasse une bonne fois pour toutes de son attraction en fait pour cette espèce de vision complètement providentielle de la politique, alors que la politique ça n'est pas ça. La politique, en tout cas dans une démocratie libérale, c'est la confrontation des points de vue, la délibération, et que ça n'empêche pas de prendre de vraies décisions. Et d'ailleurs, on a par exemple l'histoire de la Troisième République n'est pas qu'un échec. C'était une république parlementaire. Alors bien sûr, on dira qu'elle a abouti au régime de Vichy, mais quand même, il y avait bien d'autres circonstances qui expliquent l'émergence du régime de Vichy. Mais en dehors de ça, la république parlementaire, la Troisième République, était un pouvoir qui était fort et qui fonctionnait très bien. Donc je pense qu'on devrait revenir à cette vision de la politique.
Bah là, tu me contraries pas du tout. Je ne pourrais être davantage d'accord avec ce que tu viens de dire. La larme à l'œil, sans quasiment,
merci,
quasiment Philippe. De manière non ironique. Ma contrariété a vraiment rien à voir. Enfin, si, un peu à voir, parce que c'est aussi quelque chose qui s'est passé dans la presse. Hein, mais à part ça, il y a aucun point commun. Donc moi, ma contrariété, elle vient du portrait de Sonia Mabrouk, qui a été signé par un dénommé Guillaume Gindron, ou Guindron, je ne sais pas comment on dit. Dans Libération, donc, qui a été publié le 25 avril, avec le titre, comme on aime chez Libération, Sonia Mabrouk, directrice de la réaction.
Ils sont bons en jeu de mots.
Hein. C'est vrai qu'ils sont bons. C'est vrai qu'ils sont bons. Donc voilà, le texte, en fait, il réussit à la fois le tour de force de ne pas faire comprendre ce que le journaliste ou peut-être sa rédaction reproche à Sonia Mabrouk, mais en fait de le faire en enfilant toutes les perles sexistes possibles. Il y a énormément de signes perdus, donc là, je ne sais pas si tu fais attention à ça, mais moi, c'est un truc qui m'obsède, en fait. Dans les articles papier, moi, je suis toujours sidérée par la place que gâchent les journalistes à raconter des trucs, mais sans intérêt. Et j'en avais parlé, justement, à Luc Levaillant, quand j'avais moi-même été l'objet d'un portrait Libé. Heureusement, c'était un portrait sympa, mais et en fait, il m'a dit que c'était conscient et que c'était fait pour, voilà, je sais pas, pour faire de la respiration, pour le lecteur et tout, mais voilà, je comprends toujours pas, surtout sur des textes aussi courts, voilà, la place que tu prends pour des
mais par exemple, son intérêt. En l'occurrence.
Bah en l'occurrence, voilà, donc il y a un gâchis de signes monumental pour parler de sa coiffure, de son maquillage, de ses chaussures. Donc là, je vais te citer un passage du texte. C'est la décontraction que lui confère son magistère d'intervieweuse star aux audiences en flèche et au buzz en boucle est symbolisée par une paire de baskets. Fini les stilettos qui rehaussaient son mètre 77 et lui donnaient de l'assurance. Il s'agit désormais de courir toujours plus vite dans les couloirs d'Europe 1 et CNews, ces deux maisons. Donc voilà, ça c'est, je sais pas, c'est le passage le plus cruchasse du monde qu'on aurait déjà honte de lire dans un magazine féminin sur la symbolique des chaussures, genre au secours. Mais là, surtout dans Libération qui se la raconte depuis des années, super redresseur de tort féministe, ils ont lancé en 2019 la newsletter Elle, donc Elle juste comme la lettre, hein, comme Libération, tu vois. Qui était présentée comme Elle rendra compte chaque dernier mardi du mois des innombrables débats suscités par les luttes féministes, les études de genre, le combat LGBTQI+, l'intersectionnalité et toutes les percées intellectuelles, conceptuelles, révérées ou contestées, qui sont autant de bornes vers l'émancipation. Donc voilà, je ne sais pas quelle borne vers l'émancipation représente le fait de perdre 4 lignes pour parler des chaussures de Sandra Mabrouk. Donc voilà, c'était ça la contrariété. Enfin, c'était quand même une contrariété qui m'a fait marrer parce que voilà, cette incohérence. Voilà, pour donner une autre anecdote des redresseurs de tort de Libération, c'est eux qui, en 2018, après la fameuse tribune, avaient harcelé Catherine Deneuve pour qu'elle s'explique sur sa signature et lui extorquait voilà des semi-excuses complètement absurdes. Au passage, d'ailleurs, en chargeant Brigitte Lahaie, parce que c'est connu, on libère d'autant mieux la parole des femmes qu'on a une bonne sorcière bouc émissaire à cramer. Entre nous, entre les auteurs de la tribune, on se marrait en disant « mais c'est pas possible, ils ont dû prendre en otage ses enfants pour qu'elle accepte cette interview ». Voilà, donc ce portrait-là de Mabrouk, voilà, c'est la démonstration du « fait ce que je dis, pas ce que je fais ». Il n'y a pas que le sexisme, il y a aussi des petits relents... crypto-raciste, parce que voilà, je cite encore un passage où il parle d'Elkabbach qui a repéré cette fille de la bourgeoisie tunisienne en lisant Jeune Afrique, blablabla. Et là, commentaire, c'est de quoi nourrir les comparaisons avec Léa Salamé, dont elle serait, entre guillemets, une version bourrine et radicalisée selon un Manitou des médias. Et le truc marrant, c'est que plus haut dans le portrait, il rappelle que Elisabeth Lévy, en plateau sur CNews, je crois, il y a eu un petit scandale parce que Mabrouk était offusquée que Elisabeth Lévy lui dise qu'elle a une tête d'arabe. Donc d'un côté, voilà, c'est super offusquant de signaler comme Elisabeth Lévy a fait que quand tu as effectivement une tête d'arabe, tu te fais pas emmerder pareil pendant le Ramadan. Mais là, voilà, comparer deux journalistes entre elles juste sur la base de leurs origines, bah là, c'est complètement open bar. Donc voilà, l'objet de la contrariété, je trouve que ce portrait est vraiment un bel exemple de retour du refoulé, en fait. Que visiblement, c'est des gens à Libération qui passent leur vie à se contenir, à faire attention aux moindres trucs complètement anodins, qui pourraient peut-être un jour passer pour sexisme chez voilà, les puritains contemporains qu'on adore, qui s'accrochent à leur collier de perles dès que tu dis, je sais pas moi, une femme qui a la bonne mine le matin, tu vois. Mais là, ils ont une ennemie, ils ont entre guillemets une réac, et j'insiste en fait. En tout cas, moi, j'ai pas compris ce qu'ils lui reprochent en fait. Et ils déversent tout ce qu'ils ont visiblement contenu depuis des lustres, et voilà, c'est très moche.
Je trouve ta contrariété très juste. Et ce qui me frappe aussi, c'est que quand même, Sonia Mabrouk, c'est difficile de ne pas le voir, c'est une femme, et puis elle est franco-tunisienne. Et en fait, quand on a quelqu'un qui est un individu qui représente des catégories dont on se soucie, donc en l'occurrence les femmes ou les personnes d'origine étrangère, en l'occurrence maghrébine, eh bien, on n'est pas capable de revoir son idéologie, c'est-à-dire de se dire que peut-être que toutes ces personnes dans ces catégories ne soutiennent pas les causes, soit racialistes, soit de genre, enfin je ne sais pas comment les appeler, ces causes de genrées, et on préfère plaquer l'idéologie sur ces personnes. Et donc je trouve ça très déshumanisant en fait aussi. C'est comme si elle devait faire partie des camps, du camp identitaire ou se taire. Et quand elle parle, eh bien on la traite de réactionnaire. Donc c'est pour cette raison aussi, je trouve ça assez scandaleux. Alors c'est le moment de conclure cette première partie et de passer à la seconde. Nous accueillons aujourd'hui la journaliste Gabrielle Dédier. Gabrielle Dédier, bonjour.
Bonjour.
Et merci de rejoindre Les Contrariantes aujourd'hui. Je vais laisser Peggy vous présenter et introduire notre entretien.
Eh bien, Gabrielle Dédier, bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain et documentariste. Vous êtes la fondatrice du webzine culturel Ginette le Mag. Mais en fait, on vous connaît surtout depuis 2017 et la sortie de votre livre « On ne naît pas grosse » aux éditions Goutte d'Or. Ce livre est une enquête sur votre parcours de femme grosse et sur toutes les discriminations que vous avez subies, en particulier sur le plan médical et professionnel. Je citerai juste la première anecdote entre guillemets qui ouvre votre livre. Donc, vous racontez comment, lorsque vous étiez auxiliaire de vie pour enfants atteints de troubles cognitifs dans une école de Neuilly, vos collègues vous avaient dit, je cite, « Gabriel, vous représentez une double stigmatisation pour les élèves. Ils sont étiquetés handicapés mentaux et votre poids est un stigmate de plus pour eux. Vous êtes en période d'essai, libre à vous de partir. » Donc là, vous racontez que vous avez fini par flancher et par quitter votre travail, ce qui vous a fait vous retrouver sans moyen de payer votre loyer en pleine trêve hivernale et plonger dans une spirale de misère et d'autodestruction. Et là, vous écrivez qu'un réflexe de survie m'a poussé à écrire les mots que ma bouche n'avait jamais su cracher. Donc il en résulte un livre qui est petit par la taille, mais gigantesque par son propos et par son retentissement, car on peut dire que son succès a été explosif. En France, comme à l'international, vous avez eu entre autres les honneurs du New York Times, du Times, du Guardian. Vous avez fait la couverture du magazine britannique The Observer. Votre livre a été deux fois adapté pour la télévision. Donc la première sous la forme d'une fiction pour France Télévisions qui s'appelle « Moi grosse » qui a été diffusée le 15 mai 2019 sur France 2. Et la seconde sous la forme d'un documentaire qui s'appelle « On achève bien les gros » que vous avez co-réalisé avec Laurent Folea et Valentine Auberti de la célèbre société de production Bangoumi, qui a été diffusé sur Arte l'an dernier et que la chaîne franco-allemande va rediffuser le 8 juin prochain sur Arte. Et Gabrielle Dédier, vous êtes une contrariante à plusieurs titres, déjà parce que vous portez un combat qui contrarie pas mal de gens alors qu'il n'y a rien de dingue, vu qu'il consiste à faire comprendre que les gros sont des humains comme les autres et ont donc le droit aux mêmes égards et justement aux mêmes droits que tout le monde. Vous entendez donner de la visibilité à des millions d'invisibles auxquels vous dédicacez votre livre, à tous ces gros qui se cachent pour vivre, pour ne pas déranger, on ne sait pas trop quoi. Mais vous êtes aussi contrariante parce que votre parcours, en fait, justement, contrarie le poncif de la méritocratie qu'on dit morte, si ce n'est mythique et fictive. Et Laetitia et moi, nous avons une tendresse toute particulière pour les autodidactes. Parce qu'en effet, tout le succès que je viens de rapidement résumer, vous le devez à vous-même. Vous ne venez pas d'une grande famille, vos parents sont plus que modestes, vous êtes provinciale, comme on va rapidement l'entendre avec votre accent chantant. Et c'est par le seul biais de votre intelligence, de votre cran et sans doute peut-être un peu de votre chance que vous êtes devenue celle que vous êtes aujourd'hui, sachant que votre carrière est loin d'être terminée. Donc Gabrielle Dédier, bienvenue dans les contrariantes. Et pour rentrer sans plus tarder dans le vif du sujet, voici une première question. Qu'est-ce que la grossophobie ?
La grossophobie, c'est le fait de discriminer les personnes en fonction de leur poids et de leur surpoids en l'occurrence. Et la grossophobie, en fait, c'est une discrimination qui prend plusieurs formes. La grossophobie, c'est vraiment un monstre à plusieurs têtes. C'est ce que j'ai tendance à dire en tout cas.
Et quand on emploie le terme de phobie, est-ce que c'est volontaire ? Parce qu'une phobie, quand on revient à l'étymologie, c'est une peur irrationnelle. Est-ce que c'est le sens que ça prend dans ce terme ?
Non, en fait, je pense que ça a été tout bêtement calqué sur le fatphobia américain. Parce que la première fois qu'on trouve, ou en tout cas que moi j'ai trouvé le terme grossophobie en France, c'est quand j'ai fait des recherches pour mon livre. En fait, quand j'ai fait des recherches en 2016 pour faire mon livre, quand je tapais grossophobie, en fait, c'était simple. Il y avait quelques articles médicaux qui commençaient à évoquer le sujet. Et j'étais tombée sur ce livre de Anne Zamberlin qui s'appelait « En finir avec la grossophobie ». Et je pense vraiment que, en ayant étudié le parcours de Anne Zamberlin, elle connaissait les fat activistes américains et je pense qu'en fait grossophobie ça a été calqué simplement sur le fatphobia et je pense pas du tout que ça soit en rapport avec quelque peur irrationnelle que ce soit. Je pense que c'est vraiment calqué sur homophobie, sur toutes ces discriminations qui finissent en phobie et moi, je sais pas en vrai si c'est le terme adéquat, grossophobie, Mais en tout cas, c'est le terme qui est utilisé.
Alors, il semblerait que les facteurs naturels, entre guillemets, de l'obésité comptent davantage que les facteurs culturels. Par exemple, on sait que l'héritabilité de l'obésité, donc l'héritabilité, c'est le pourcentage de la variation d'un trait dans une population qui est due à des facteurs génétiques. Donc, celui de l'obésité, pardon, de l'obésité est très haute vu qu'elle est à près de 75, entre 75 et 80%. Et comment se fait-il que cela soit peu connu?
En fait, moi j'ai l'impression que vraiment, quand on parle d'obésité, personne ne sait rien ou personne ne veut rien savoir. C'est assez ambigu. On sait qu'il y a de la recherche qui est faite, on sait qu'il y a des choses qui avancent, mais on reste sur des vieilles croyances, en fait. Quand on parle d'obésité, c'est pour dire qu'il faut maigrir. Et du coup, on reste sur des vieux mécanismes, des vieilles croyances, et on ne s'intéresse pas réellement à ce qu'est l'obésité. Alors qu'on a vraiment de la recherche qui est faite, hein. On a de la recherche qui est faite sur le tissu adipeux, sur l'épigénétique, on a vraiment des choses qui avancent, mais ces choses-là, elles n'intéressent pas. Et je pense que c'est aussi en lien avec le rapport de la médecine à l'obésité, et on ne va pas se mentir, le rapport de la médecine à l'obésité, il est assez compliqué. Les médecins eux-mêmes disent, en tout cas les médecins généralistes, disent qu'ils survolent ce sujet quand ils font leurs études. Et donc eux-mêmes, enfin, s'ils sont pas passionnés par le sujet obésité, eh ben, ils vont pas le traiter. C'est pour ça qu'on a, en tout cas dans la population lambda, on n'a aucune connaissance de ce qu'est l'obésité en réalité. Enfin, l'obésité, si vous demandez aux gens, ils vont juste vous parler de votre IMC et enfin, du fait que vous êtes gros. On ne va pas vous dire que c'est une maladie inflammatoire chronique, que c'est une inflammation du tissu adipeux. Enfin, les gens, ils ne vont pas vous raconter tout ça. Ils savent pas. Et donc, je pense qu'ils ne savent pas, comme ils ne savent pas que oui, il y a d'abord des prédispositions qui font que ces prédispositions, en fait, elles s'affirment quand il y a après une convergence de facteurs qui font que ces gènes d'obésité peuvent s'exprimer avec toute leur force.
Alors justement, dans votre livre, vous expliquez que l'obésité est indissociable de la misère. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Si on prend une carte de France, en fait, le taux de chômage et le taux d'obésité sont parfaitement calculables. Les régions les plus pauvres sont les régions où on a le plus de gros. Ça, c'est purement de la démographie. Et quand on va plus loin dans la cartographie, on sait que les gros ne sont pas dans les centres-villes. Ils sont plutôt en périphérie, ils sont plutôt dans les campagnes, ils sont pas dans les endroits où ils sont pas dans les endroits en fait actifs, ils sont pas dans les endroits où on embauche. Et en fait, on se retrouve avec des données. En tout cas, c'est l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui donne ces chiffres qui sont que chez les plus riches, donc les plus riches ceux qui touchent plus de 4 000 euros par mois. Le taux d'obésité est de 7%, alors qu'il passe à 33% chez les gens qui sont au RSA, en passant par 26% chez les gens qui sont au SMIC, alors que le taux moyen, c'est 17%. Donc, en fait, on a vraiment des marqueurs au niveau statistique qui nous disent que oui, plus on est gros, plus on est pauvre. Ou plus on est pauvre, plus on est gros plutôt.
Pour en revenir à l'existence de la grossophobie, pourquoi, à votre avis, les gros sont-ils discriminés?
Oh, je pense que les gros sont discriminés pour plein de raisons, en fait. Statistiquement, on sait que, enfin, on a des preuves de cette discrimination, notamment à l'embauche. On sait qu'une femme obèse est 8 fois moins employable qu'une femme qui ne l'est pas. On sait qu'un homme obèse est 3 fois moins employable qu'il ne l'est pas. Donc, en fait, on parvient à évaluer un peu cette discrimination. Après, en fait, ce qui se joue, c'est que il y a un regard moral qui est porté sur le gros. On prend pas la personne grosse ou obèse comme une personne qui est atteinte justement de ses prédispositions génétiques et puis après de ses facteurs environnementaux et sociaux qui viennent s'ajouter à cela. on prend l'individu comme, comme en fait une personne déviante et on pose un regard moral sur cette personne. Donc cette discrimination, elle vient aussi du fait qu'il y a ce regard. On regarde souvent les gros comme des enfants, on les infantilise vraiment beaucoup. De ce que j'ai vécu et de ce qu'on a pu me rapporter, on se permet de donner des conseils sur le comment manger, comment se tenir, comment s'habiller. On parle vraiment aux gros comme à des enfants de 3 ans et c'est vraiment parce qu'on les prend pas au sérieux. On les prend pas au sérieux parce qu'on les juge et on les juge parce qu'on se dit on ne peut pas être intelligent et être comme ça. On ne peut pas être de bonne volonté, de bonne nature et se laisser aller à un état physique tel. Si la personne était saine, si la personne d'esprit, elle serait saine de corps. Et en fait, il y a tous ces raccourcis qui sont faits. Il y a aussi ces croyances qui veulent que. Alors, ces croyances, parce que moi, ça m'est arrivé personnellement, hein, quand je passe un entretien d'embauche et qu'un recruteur me dit que l'IMC est inversement proportionnel au quotient intellectuel. En fait, voilà, il me dit que plus on est gros, plus on est bête. Alors, il était mal tombé, mais la réalité, c'est qu'en fait, il y a plein de préjugés, plein de croyances sur les gros, et comme on n'a pas de, enfin, on va pas se mentir, on a quand même des gros qui réagissent pas, qui ont tendance à s'auto-censurer, qui ont tendance à ne pas se plaindre, qui ont tendance à culpabiliser, qui ont tendance à se laisser faire aussi. Et c'est aussi pour toutes ces raisons-là qu'ils sont invisibles. Et donc, en fait, comme le gros culpabilise, il se laisse maltraiter en somme. Et donc, il reste dans une position, j'aime pas ce terme, mais il reste dans une position de dominé. Et c'est ce qui fait que... Les non-gros pensent vraiment qu'ils ont, enfin, qu'ils sont dans le juste, alors que, enfin, non, c'est pas une histoire d'être dans le juste ou dans le faux. Enfin, je suis grosse, ça veut pas dire, enfin, on ne peut pas s'arrêter à mon corps pour dire que je suis déviante, que j'ai pas de morale, que j'ai tous les vices de la terre, en fait. Sauf que c'est ce qui se passe, et ce qui se passe aussi, c'est que comme on est toujours dans ce culte de la performance et avec ce, c'est mécanique, c'est une carence de la volonté. Si elle faisait un effort, elle ne serait pas aussi grosse. Et donc, on prend ces gros pour un peu des incapables, des impotents qui sont pas capables d'avoir des... qui n'ont pas de jus, en fait, qui n'ont pas de motivation, qui n'ont pas de mojo, qui n'ont pas de tout ça. Et donc, c'est pour ça. En fait, on a vraiment une photographie du gros qui est complètement fausse. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement.
C'est tout à fait clair.
C'est très clair.
Pour aller sur un autre sujet, le surpoids et l'obésité font partie des facteurs connus de complications et de mortalité du Covid, et pour le coup, quasiment depuis le tout début de la pandémie. Et en fait, on voit que l'information a du mal à passer, tant et si bien que les gros n'ont pas été considérés comme une population à risque dès le départ de la campagne. Là, le jour, aujourd'hui, on enregistre l'émission le 29 avril. Ça vient juste de tomber que les obèses adultes allaient avoir droit à être vaccinés à partir du 1er mai. Donc voilà, ça n'a pas été considéré comme une population à risque dès le départ de la campagne, alors qu'on savait que c'était une population à risque. Donc pourquoi, à votre avis ?
Bah alors, pourquoi ? Moi, je trouve qu'on était dans une situation mais tellement paradoxale où dans les médias, on nous montrait que des gros en réanimation, mais vraiment que des gros. On nous a même donné de fausses informations au départ parce que il se trouve que nos experts télé du Covid, c'était pas vraiment des experts et ils savent pas lire des études, ils savent pas lire des statistiques. Donc je me souviens très bien au début de la pandémie, on nous disait que 80% des morts étaient des gens obèses. Donc il se trouve que c'est un peu plus compliqué que ça aujourd'hui. Et le paradoxe, c'est qu'on a cette surmortalité chez les personnes grosses. mais on les met pas, on les a pas mises prioritaires. Pour moi, c'est une vraie erreur. Enfin, c'est une vraie erreur. Alors, je sais pas qui a décidé ça, si c'est l'ARS, je ne sais pas à quel niveau ça se décide, qui est prioritaire ou pas. Mais en fait, on pouvait. Enfin, moi, je trouve assez fou que, enfin, l'IMC en fait, hein, enfin l'IMC élevé, l'obésité, c'est le deuxième facteur de risque après l'âge. Et donc, c'était très bien de vacciner bah, les personnes dites fragiles. Et je n'arrive pas à me dire, est-ce que on ne nous a pas mis comme prioritaire parce que on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de doses et qu'en fait, on avait vachement plus de crocs que ce qu'on croyait. Enfin, je me demande vraiment si les pouvoirs politiques de santé savent combien il y a de gros en France. Je me demande vraiment s'il y a... comment on appelle ça, s'il y a vraiment un état des lieux de l'obésité aujourd'hui. Enfin, les hôpitaux le disaient eux-mêmes, en fait, qu'il y avait une surreprésentation de ces gros. Donc, enfin, moi, j'ai du mal à m'expliquer pourquoi en fait, on ne nous a pas compté parmi les personnes à risque, d'autant plus que, quand on parlait tout à l'heure des gros et de la pauvreté, en fait, les gros qui travaillent ont des jobs qui sont justement ces jobs de personnes qui étaient en première ligne, qui sont des caissières, qui sont des femmes de ménage, qui sont... les gros, vous ne les trouvez pas chez les cadres. Hein. Les gros, ils avaient... parmi les gros qui travaillent, ce n'étaient pas des gros qui travaillaient en télétravail, en fait. Hein. Donc, on se retrouvait dans cette situation complètement ubuesque où on a une surreprésentation, enfin, surmortalité des gros à l'hôpital. Les gros sont plus, étaient plus touchés parce que ce virus apparemment aime beaucoup le tissu adipeux et s'y est développé. C'est pour ça que les personnes obèses ont une charge virale plus importante que les personnes qui ne le sont pas et qu'elles ont développé des formes plus, plus graves que les personnes qui ne sont pas obèses. Pour moi, on est vraiment dans... soit on est dans l'impensé, ce qui est possible parce que avec les gros, on est souvent dans l'impensé, alors qu'on a quand même un taux d'obésité qui a doublé les 15 dernières années et qui a triplé sur les 30 dernières années. Enfin, dans les années 90, on avait 5% de taux d'obésité. Aujourd'hui, on est entre 15 et 17% et les études, c'est pas, elles sont pas tout, enfin, elles sont pas si récentes que ça. Donc voilà, je ne sais, enfin, moi, j'ai du mal à me dire qu'on vit dans un pays qui adore ça, faire des études... on adore ça, hein. On fait des rapports toute la journée, enfin, on est des professionnels du rapport, mais on est quand même dans l'impensé au niveau de l'obésité.
Justement, vous avez évoqué les pourcentages erronés hein, qui étaient donnés au début de l'épidémie sur la proportion de gros parmi les victimes du Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les vrais chiffres, à la fois la mortalité et puis les formes les plus graves de la maladie ?
Des derniers chiffres que j'ai pu trouver, apparemment en réanimation, il y aurait 45 à 47% de personnes obèses et le taux de mortalité générale serait 41% de personnes obèses. Donc on reste dans une surreprésentation des personnes obèses vu que le pourcentage de personnes obèses en France, c'est 17%. Si les chiffres correspondaient... enfin, au pourcentage de population, on n'aurait pas ça. Donc, on est quand même sur du 2,5 fois.
Et est-ce que la France est un cas à part ou est-ce qu'on retrouve à peu près les mêmes chiffres dans le monde ?
Alors, il se trouve que des chiffres que j'ai trouvés, il y a ceux du Canada où ils ont le même taux de personnes obèses qui sont mortes du Covid, mais ils ont 26% de personnes obèses dans leur pays. Donc, avec un pays qui a 10 points de pourcentage en plus par rapport à nous en taux d'obésité, ils arrivent au même nombre, enfin, au même pourcentage de morts obèses. Donc, je pense qu'on peut vraiment dire qu'on a une surreprésentation des personnes obèses victimes du Covid et mortes du Covid.
Et justement, vous dites souvent que les gros Français sont parmi les plus mal lotis du monde, car la grossophobie est plus forte qu'ailleurs. Est-ce que vous pouvez développer ce point de vue ?
Oui, je dis souvent que les personnes grosses en France sont mal loties parce que, bah parce qu'en fait, on a vraiment un problème au niveau des infrastructures médicales. Je vais prendre un exemple, l'exemple le plus simple possible c'est aller chez le docteur et tomber sur un docteur qui a une balance qui s'arrête à 150 kilos et qui a un bracelet, un tensiomètre dans lequel votre bras ne rentre pas. Aujourd'hui, chaque médecin devra avoir une rallonge pour son tensiomètre. On ne peut pas avoir un taux d'obésité de 17%, sachant que dans certaines régions, c'est beaucoup plus fort, vu qu'il y a ces inégalités de territoire. Donc, les régions les plus pauvres sont les régions où il y a le plus de gros. Et en fait, on se retrouve quand même avec des gens qui continuent à nous dire que leur médecin n'a pas de rallonge pour le bracelet. Vous savez combien coûte un tensiomètre avec une rallonge? Ça coûte 30 euros. Donc, je pense qu'il y a un moment, il y a des efforts qui sont à faire qui ne sont pas de gros efforts. Je veux bien qu'on me dise que c'est compliqué, qu'on n'a pas encore tout le matériel pour les gros, mais on n'a pas encore tout le matériel pour les gros parce que justement, on ne pense pas politique publique, on ne pense pas... Enfin, moi, je ne sais pas comment on peut faire de la politique publique et la politique de santé et pas avoir pris en compte que le taux d'obésité avait triplé en 30 ans, en fait. Enfin, si le taux d'obésité a triplé en 30 ans, ça veut dire que ces gros, ils sont là et que potentiellement, il va falloir les soigner, que potentiellement, il va falloir s'en occuper. Donc, pourquoi est-ce que les gros sont en France moins bien lotis? Mais parce qu'en France, on est tellement mais à la rue, je suis désolée pour l'expression, hein, mais au niveau du matériel, que des personnes très grosses doivent faire des radios, des examens médicaux dans des écoles vétérinaires. Parce que dans les écoles vétérinaires, on a le matos pour les girafes, mais on n'a pas de matos pour les humains. Et ça, moi, ça me rend un peu chèvre.
C'est le cas de le dire.
Mais... oui. oui. Et en fait, ce qu'on retrouve au niveau médical et à ces problèmes... Enfin, moi, je peux prendre un exemple qui est très personnel, hein, cet hiver. Je suis allée chez mon ophtalmo. Mon ophtalmo me dit que j'ai de la pression dans l'œil, qu'il faut faire une IRM cérébrale. Je me dis OK. Je cherche sur Doctolib. Ça dit que c'est limité à 130 kilos. J'étais à 125. Donc, je me dis, ça va. En fait, on me dit que ça va pas, que 125 c'est comme 130 et que je peux pas avoir de rendez-vous. Je vais voir mon médecin, on met des semaines à trouver une IRM qui prend à 200 kilos. Cette IRM là, elle était non remboursée par la sécurité sociale. Enfin, j'en étais là en fait. Et pendant des semaines, j'ai eu peur. Enfin, j'y allais parce que j'avais une suspicion de tumeur cérébrale quand même. Alors, heureusement pour moi, j'ai rien du tout, mais j'ai passé des semaines à stresser parce qu'il n'y avait pas d'IRM. Enfin, je vis à Paris, je vis pas... Enfin, je sais pas, je vis pas au cœur de la Lozère. Enfin, je vis à Paris et j'avais pas d'appareil pour rentrer à 125 kilos, en fait. Et ça, c'est pas possible. Et je pense que ce qui se passe à ce niveau-là, c'est... Enfin, c'est exactement pareil sur toutes les infrastructures. Et quand je parle de la différence, en fait, de pourquoi les Français, ils vont pas chez le docteur, mais parce que quand ils vont chez le docteur, de toute façon, on peut pas leur prendre la tension. Enfin, ou en tout cas, la plupart des médecins peuvent pas prendre la tension. Il y a encore des médecins, des salles d'attente où ce sont des chaises pliantes de jardin qui sont dans la salle d'attente. Donc, ce sont des chaises qui ne supportent pas plus de 100 kilos en général. Enfin, toutes les chaises pliantes, à partir de 100 kilos, elles éclatent. Hein. Ou des chaises qui ont des accoudoirs. Enfin, il y a encore des médecins qui ont des chaises avec des accoudoirs dans leur salle d'attente. Alors forcément, nos gros, ils font quoi? Ils évitent d'aller chez le toubib. Ou alors, quand ils y vont, c'est trop tard. C'est parce qu'ils ont une pathologie qui s'est développée. On n'a pas fait de prévention avec les gros, quand je discute de matériel, justement, quand je compare avec le Canada, a priori, au Canada, ils peuvent aller se faire soigner. En fait, ils vont chez le docteur bien plus tranquillement que chez nous, mais de la même façon que chez eux, on trouve des vêtements à sa taille et qu'on trouve des chaussures à sa taille. Et que ces questions-là, en fait, elles sont pas encore réglées là-bas, hein, parce qu'il y a encore aussi beaucoup de discrimination, mais chez nous, on est... En fait, on ne veut pas voir les choses. C'est facile, c'est... J'ai tendance à comparer ça un peu au ce qu'on ne veut pas voir, en fait, on s'arrange pour que ça n'existe pas. On ne veut pas avoir de SDF, on a du mobilier anti-SDF. Et donc la question, bah oui, on n'a pas de gros, enfin si on n'a pas de matos pour les gros, on verra pas les gros. Hein, parce que les gens s'étonnent de ne pas voir des gros dans la rue, mais quand on me dit, ah ben oui, ben moi, enfin, il n'y a pas de gros quand je vais au parc d'attractions, ben forcément, il ne peut pas monter dans le manège, donc il ne va pas aller au parc d'attractions. Enfin, il est pas, enfin, voilà. Et donc, on est sur ça pour tout. Mais je pense qu'on est quand même à l'aube d'un vrai problème sanitaire, parce que ce qui s'est passé là depuis un an, cette crise, elle ne fait que nous révéler toutes les failles et tous les manquements qu'on a, parce que oui, enfin, on a quand même la chance d'avoir le système de santé qu'on a. Hein. Je suis pas du tout du genre à cracher sur le système de santé. Je sais qu'on est bien chanceux d'avoir le système qu'on a. Cependant, il est vieillissant, il se paupérise et en fait, on n'investit pas, et on n'investit pas dans ces populations. On sait, quand on a une population qui vieillit, eh ben on se rend compte qu'on est un peu à la rue avec les vieux. On a des problèmes avec les EHPAD, on a des problèmes avec les maisons de retraite, on a des problèmes avec les retraites. Et là, ces gros, ils arrivent en masse, hein, sans vouloir faire de jeu de mauvaises. Ces gros sont là, et qu'on le veuille ou non, le taux d'obésité augmente. Et on ne va pas pouvoir continuer, en fait, à ne pas les voir, parce que ben, ces gens, c'est pas des gens de seconde zone, hein, ils méritent, ils ont le droit d'aller à l'hôpital comme tout le monde, en fait, ils ont le droit de se faire soigner, ils ont le droit d'exister, et c'est pas possible, en fait, on peut pas rester sur du, c'est quelque chose de, comment on appelle ça, c'est plus un épiphénomène, l'obésité en France, et dire ça, c'est pas dire que c'est cool d'être gros et qu'on va rien faire pour les gros et que, enfin, c'est juste, enfin, pour moi, c'est juste un constat d'échec, en fait, c'est tout ce qui n'a pas été fait, tout ce qui n'a pas été mis en place. C'est à quel moment on peut avoir ces gens-là qui nous pondent des rapports de politique publique toute la journée et qui comprennent pas que ces gens gros vont le rester. C'est pas parce qu'on nous pose des injonctions à la chirurgie bariatrique qu'on va tous se faire couper l'estomac et peser 50 kilos dans un an, hein.
Alors, le combat contre la grossophobie a tout de même ses extrémistes, hein, comme tous les combats. Que pensez-vous du courant qu'on pourrait appeler identitariste, qui partant du fait assez indéniable que les obèses sont une catégorie opprimée de la population, assimile tout discours proprement médical sur l'obésité à une marque de grossophobie?
Je pense que c'est un vrai problème, et moi je me reconnais absolument pas dans quelques discours identitaires que ce soit. D'ailleurs, en fait, tous les discours identitaires m'effraient, et chez les gros, c'est pareil. Moi, j'ai vraiment un problème avec ça, parce que oui, comme vous dites, il y a un fond qui est indéniable. Oui, les gros sont stigmatisés. Oui, les gros sont discriminés. Oui, les gros sont moqués. Oui, enfin, il y a des gros pour qui la vie est un enfer. On va pas se mentir. Mais cela étant, moi je suis pas sur les discours qui visent à dépathologiser l'obésité. Je sais qu'il y a plusieurs formes, hein, de discours. Il y a ceux qui pensent que s'attaquer à l'obésité, ce serait une forme d'eugénisme, parce que justement il y a cette prévalence-là et que bah, ces corps existaient déjà il y a 2000 ans, et qu'il n'y a pas de raison qu'ils n'existent plus, et que vouloir éradiquer l'obésité, ce serait quelque chose de l'ordre de l'eugénisme. Alors que, enfin, moi je suis plutôt dans le truc, si demain on me dit qu'il y a une thérapie génique pour plus être obèse, je saute dessus. Hein. Enfin, donc voilà, donc il y a des discours comme ça, mais il y a aussi des discours où j'ai l'impression que souvent on confond plein de choses, parce que bah oui, je suis la première à dire que bah oui, on peut être obèse et ne pas développer de pathologies associées, ce qu'on appelle des comorbidités. Et cependant, en fait, Je crois que quand on parle de gros en bonne santé, on parle de gros qui n'ont pas développé de pathologies associées. Mais du coup, on oublie que de toute façon, être gros, enfin, on peut appeler ça une maladie, un syndrome ou je ne sais pas quoi, ça reste une inflammation chronique du tissu adipeux et on garde un terrain inflammatoire avec des prédispositions à. Donc moi, je ne suis pas pour dépathologiser. Enfin, je pense même, enfin, je ne vous cache pas que sur cette question-là, moi, je rejoins plutôt la Ligue contre l'obésité, même si je, enfin, j'en suis pas proche. Mais la Ligue contre l'obésité, elle propose, par exemple, que l'obésité, à partir d'un certain IMC, soit traitée comme une affection longue durée, en fait. Et moi, je trouve que cette approche, elle est plutôt intéressante parce que justement, on peut pas partir du constat que les gros sont aussi les plus pauvres. Et que, du coup, faire de l'obésité une affection longue durée, ce serait faciliter leur parcours médical s'ils veulent entreprendre un parcours médical, en fait. Donc, parce que, on va pas se mentir, les rendez-vous chez le diététicien, c'est souvent pas remboursé ou pas très bien. Les rendez-vous chez le psychologue, on n'en parle même pas. En fait, le parcours obésité, il est vraiment... Le parcours médical obésité, hein, quand en tout cas on veut faire ces démarches-là, ce serait vraiment faciliter la vie. Et peut-être que s'il y avait vraiment une ALD sur l'obésité, on ne se serait pas retrouvé avec ces questions de est-ce qu'on vaccine les gros ou pas. Donc moi, je suis plutôt sur ça. Sur les discours identitaires, en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est que... En fait, depuis que on parle de grossophobie et que le mot est rentré de plus en plus dans les usages et notamment dans les usages, enfin au niveau des médias, etc. Enfin, on peut pas dire que le mot est inconnu et sauf que j'ai l'impression que c'est un peu utilisé à tort et à travers et qu'on voit de la grossophobie où il y en a pas toujours et moi je pense qu'il faut pas tout confondre en fait. C'est devenu assez compliqué. Enfin, typiquement, encore une fois, je vais prendre mon exemple parce que c'est plus facile. Mais moi, quand je dis que... quand je dis que j'ai pesé jusqu'à 160 kilos et que j'aimerais au moins, à minima, passer un jour sous les 100 kilos, rien que quand je dis ça, j'ai l'impression de passer pour une traîtresse. Alors que je n'appartiens déjà à aucun groupe quel qu'il soit, mais je trouve que il faut faire attention avec ces discours identitaires parce que vraiment, enfin, je comprends l'idée, je comprends aussi ces gens qui disent non, enfin je suis pas malade, je vais bien, mais enfin, ce que j'ai noté quand même, c'est que la plupart des gens qui disent qu'ils vont bien ont tous moins de 40 ans, ils n'ont pas encore métabolisé quoi que ce soit. Alors, je ne dis pas évidemment qu'il y a des gros qui vont rester très bien et qui n'auront jamais de diabète et qui n'auront jamais d'hypertension et qui n'auront jamais mal aux genoux. Et c'est tant mieux parce qu'en fait, le problème, c'est pas tant l'obésité, le problème, c'est la sédentarité qui va avec. Beaucoup de maladies associées à l'obésité sont aussi et surtout des maladies de la sédentarité qui est vraiment un mal de nos sociétés. Sur les discours identitaires, enfin moi, non seulement je peux pas me reconnaître, mais je peux pas adhérer, je peux pas me dire que c'est comme ça en fait. Oui, il y a des gros. Oui, moi je préférerais que le taux d'obésité ne soit pas aussi important. Oui, je préférerais que les gamins à naître n'aient pas à vivre ça. Pour autant, les gros qui existent, il faut les traiter tout simplement comme tout le monde et normalement et avec respect et sans discrimination.
Alors, vous en avez parlé rapidement, mais j'aimerais qu'on revienne dessus. Dans votre livre, On n'est pas grosse, on apprend notamment que la chirurgie de l'obésité a un taux très élevé d'échec et qu'elle a aussi des effets secondaires parfois très lourds. Pourquoi est-ce que ces informations sont-elles aussi peu connues ?
Alors vraiment, la chirurgie bariatrique, c'est, 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 c'est devenu mais un tel lobby en fait. C'est je pense que déjà la chirurgie bariatrique c'est vraiment apparu comme une solution à on va pas se poser toutes ces questions là de prévention, de prise en charge longue, etc., etc. On a une solution qui vise à réduire la taille de l'estomac. Pendant un an ou deux, les gens y maigrissent et ça nous fait ça de moins, ça nous fait ça, enfin ça de gros en moins en fait. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Et déjà quand on parle de taux d'échec avec la chirurgie bariatrique, on parle quasiment uniquement de reprise de poids, alors que pour moi les taux d'échec il va au-delà des reprises de poids. Alors pour la sleeve, on est autour des 35-40% de reprise de poids après 5 ans de chirurgie, et pour le bypass on est plutôt entre 25 et 30%. Mais il faut quand même savoir que souvent, un bypass est fait après une sleeve. Et,
qu'est-ce que c'est un bypass et une sleeve ?
Oui, alors la sleeve, en fait, c'est le fait de réduire des trois quarts la taille de l'estomac et de faire en sorte en fait, que la poche d'estomac n'existe plus et que notre estomac soit juste le tube. Donc ça, c'est la sleeve. Et le bypass, c'est un peu plus de tuyauterie. On va contourner l'estomac, on va aller directement dans les intestins. Et ce qui se passe, c'est que la personne maigrira par malabsorption des nutriments.
Ah oui, d'accord. Oui.
Voilà. C'est des chirurgies qui, en réalité, à la base, ça vient des chirurgies digestives sur le cancer de l'estomac et le cancer des intestins. Et on s'est rendu compte que c'était des chirurgies qui faisaient maigrir les gens. Et donc c'est comme ça qu'on a découvert les effets de ces chirurgies-là, en fait. Et donc, en fait, on se retrouve avec des gens qui se retrouvent avec des estomacs très réduits et qui pendant 2 ans perdent du poids et qui, cette perte de poids qui dure 2 ans, on l'appelle la lune de miel parce que c'est une période où en général les gens se sentent bien, ils se sentent bien parce que ils maigrissent enfin, ils parviennent à se vêtir comme ils voulaient, ils parviennent à trouver du travail, sauf que les effets secondaires sont quand même assez importants. Donc, en dehors de ces reprises de poids, on a quand même un taux de suicide augmenté qui est important. Enfin, les personnes obèses se suicident 2 fois plus que la population lambda, mais les personnes opérées se suicident 2 fois plus que les personnes obèses. Donc déjà, on a un taux de suicide augmenté. On a aussi un report des addictions parce que si toutes les personnes obèses ne souffrent pas de troubles du comportement alimentaire, elles représentent quand même 60% des personnes obèses. Et donc, y a des personnes qui reportent... ce qu'elles ne mangent plus, elles le passent à autre chose. Elles le passent dans les drogues, elles le passent dans l'alcool, elles le passent dans les casinos. Elles continuent à avoir des comportements qu'on peut dire déviants ou en tout cas qui sont plutôt des comportements déviants.
Oui, des dépendances en fait, des addictions.
Oui, c'est ça. Exactement. Oui, voilà, elles ont des reports d'addiction. Donc il y a ça qui est là, sauf qu'il y a aussi des problèmes au niveau médical. Donc dans le cas du bypass par exemple, l'idée du bypass, c'est on va vous faire maigrir avec la malabsorption. Donc, en gros, vous n'absorbez plus rien. Vous n'absorbez plus de nutriments, vous n'absorbez plus rien. Ce qui fait que quand vous faites un bypass, vous devez avoir une complémentation vitaminique à vie. Et donc, on se retrouve avec des gens qui perdent les cheveux, qui perdent des dents. Et on se retrouve aussi avec des gens qui ont des carences en vitamines qui sont assez importantes. Enfin, moi, j'ai rencontré une personne dont la carence vitaminique a entraîné une altération de sa gaine de myéline. Et la gaine de myéline, c'est ce qu'il y a autour des nerfs, en fait. Et du coup, elle avait des douleurs atroces parce qu'en fait, elle avait plus de protection. On se retrouve avec des gens qui sont nourris par sonde nasogastrique parce que parfois, on coupe trop. Et donc, les gens, ils peuvent plus se nourrir, ils peuvent plus s'alimenter. Donc, on se retrouve avec des personnes qui ont des sondes nasogastriques qui se nourrissent avec des tuyaux, quoi. On se retrouve aussi avec... Enfin, on se retrouve aussi, là, j'ai vu justement, il y a de plus en plus de personnes opérées qui se plaignent de SIBO. Le SIBO, c'est un syndrome, c'est une maladie du côlon ou des intestins et qui fait qu'il y a des douleurs importantes et des flatulences plus. Donc, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui signalent ça. A priori, dans les dernières études que j'ai vues, qui sont à approfondir, il y aurait une augmentation du risque de cancer du côlon après ces chirurgies-là. Enfin, on n'est vraiment pas sur un truc qui est funky, hein. Alors évidemment, il y a des choses qui sont super, super intéressantes parce qu'il y a des gens qui vont très bien aussi, heureusement, c'est quand même la moitié, qui vont très bien après une chirurgie bariatrique et qui voient qu'ils n'ont plus besoin de traitement pour le diabète, par exemple, qui n'ont plus besoin d'appareils pour les apnées du sommeil. Mais ça, ce n'est pas la chirurgie bariatrique en elle-même qui l'a apporté ce bénéfice, c'est l'amaigrissement. Et si l'amaigrissement avait lieu différemment, les bénéfices auraient été les mêmes. Ça aurait été peut-être plus long, mais les bénéfices auraient été les mêmes. Donc en fait, on est sur quelque chose qui est... mais qui est en plus assez violent parce que le suivi, il est quand même censé être à vie et on se retrouve avec plus de... Alors, il y a 5 ans, on était à 80% de personnes qui disparaissaient des radars. Là, on serait quand même à 50 ou 60% de suivi après une chirurgie bariatrique, mais on ne peut pas encore dire à vie vu que ça fait pas une vie qu'on la pratique en France. On n'a pas encore des études sur que va-t-il se passer si une personne qui a été opérée une leucémie ou un cancer du sein, comment elle va supporter les traitements. Sur ça, il n'y a pas encore de grosses études. Donc oui, il y a cet amaigrissement, mais j'ai envie de dire le behind the scene, derrière les coulisses. C'est pas aussi rose que ça et il y a beaucoup de gens qui du coup se retrouvent qui avaient ce corps gros et qui ont fait des démarches pour faire cette chirurgie bariatrique parce qu'elles se sentaient mal ou parce qu'elles avaient développé des comorbidités, mais qui avaient des organes sains et qui se retrouvent en fait à avoir subi des chirurgies bariatriques et qui se retrouvent dans des états de santé qui sont assez compliqués, en fait.
Alors, pour rester sur ce sujet, mais aussi celui de la télé-réalité que nous avons évoqué tout à l'heure avec Peggy, il se trouve que la grossophobie est arrivée récemment aux oreilles du grand public avec l'émission de télé-réalité Opération Renaissance sur M6, qui suivait 10 personnes en obésité morbide et engagées dans un parcours de chirurgie de l'estomac. Qu'avez-vous pensé de cette émission et aussi de la polémique qu'elle a générée?
Alors déjà, pour être transparente, il y a 4 ans, quand il y avait eu la pétition pour que l'émission n'ait pas lieu, parce qu'il y avait eu une enquête de BuzzFeed, je crois, où il y avait Karine Lemarchand qui posait avec des estomacs découpés, j'avoue, j'avais signé pour que l'émission n'existe pas. Sauf que, une fois que l'émission existait, moi, j'ai pas fait partie des gens qui ont signé la tribune pour qu'elle ne soit pas diffusée, parce que, pour moi, ça sert à rien, honnêtement. Et parce que j'espère que les gens sont assez grands pour choisir les programmes qu'ils regardent. Et donc, les polémiques qu'il y a eu autour de l'émission, je sais pas. J'ai regardé l'émission. Honnêtement, l'émission, je l'ai trouvée bidon, mais parce que je savais qu'on n'aurait pas une émission de vrai suivi avec des opérés. Là, on s'est retrouvé dans une émission qui est une émission de total relook qui ne dit pas son nom. Et donc, avec une caution médicale parce qu'on avait recréé un collège de médecins, Sauf qu'en réalité, ces médecins, ben, moi j'aurais aimé qu'ils parlent, j'aurais aimé apprendre des choses. Là, on se retrouve avec des candidates. Enfin, moi j'ai vu que le premier avec les deux premières candidates, j'ai pas regardé les semaines d'après. On se retrouve avec deux candidates, alors qui, pour le coup, en revanche, je veux dire, le casting était bien fait parce que. Parce qu'elle reflétait vraiment les personnes qui vont se faire opérer, en fait. Enfin, au niveau du casting, c'était exactement le public qui se fait opérer. Et en revanche, bah, l'émission, on voit quoi? On est autour... Enfin, c'était un peu misérabiliste, c'était... Enfin, moi, j'ai trouvé ça un peu putassier, un peu mal fait. La star de l'émission, c'était la présentatrice, c'était pas les gens. Et on n'a rien appris, justement, de leur vécu. Enfin, parce qu'on voit ces personnes qui vont se faire opérer, on les voit se faire opérer, et on les revoit plus tard quand elles ont maigri, et qu'elles regardent leur mois d'avant, et se moquent elles-mêmes de leur mois d'avant en disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'étais grosse !» Mais sauf qu'on n'a rien appris de bah, comment elles se supplémentent, quelle est leur vie, quel est leur quotidien, qu'est-ce que ça a apporté. Donc enfin, pour moi, c'était bidon. Mais surtout, enfin, la polémique, en fait, moi, je ne l'ai pas pigé. Enfin, je ne l'ai pas pigé parce que pour moi, c'était vraiment du même ordre qu'une émission de Pascal le Grand Frère, en fait. C'était encore une fois, enfin, pour moi, c'était vraiment une émission un peu de mépris de classe. Enfin, j'avais comparé ça... à la rue des Allocs, en fait. On prend des gens, enfin, on les, enfin, des gens qui sont déjà stigmatisés, on en rajoute une couche, enfin, il y a un petit effet hyper, comment on appelle ça, hyper voyeuriste, enfin, mais, en fait, pour moi, c'était, enfin, c'est de la télé poubelle, et l'émission, enfin, je voudrais qu'elle n'existe pas, mais parce que je voudrais qu'on vive dans un monde intelligent qui n'a pas besoin de ce genre d'émission. Mais si... Enfin, moi, après, je suis pas pour la censurer, quoi, l'émission. Mais si on la censure, bah, pourquoi on censure pas? Enfin, juste après cette émission, en fait, d'M6, oui, c'était M6, il y avait une émission pareille de perte de poids, mais qui était présentée par Mac Lesguy. Donc je regarde la première émission qui fait polémique et où les gens me demandent de la censure, etc. Après ça, j'enchaîne avec l'émission de Mac Lesguy où il y a pareil 4 personnes ou 5 qui veulent maigrir, dont certaines qui n'étaient pas en surpoids. Et là, il y avait des vraies questions d'éthique. Alors, c'était pas une émission sur la chirurgie bariatrique, mais c'était une émission sur la perte de poids. Et il y avait quand même des médecins qui suivaient une femme qui n'était pas en surpoids et qui voulait maigrir, hein. Donc, enfin, pour moi, il y avait plus de problèmes là, et là, il y avait personne pour demander la censure de cette émission, alors qu'elle valait pas mieux, en fait. Mais si on veut censurer cette émission, on peut aussi fermer NRJ12, hein. Enfin, on gagnera du temps, hein. Enfin, pour moi, c'est juste de la trash TV, ça ne devrait pas exister, et je fais confiance aux gens, et j'ai bien fait de faire confiance aux gens, vu que le programme s'est arrêté faute d'audience.
Pour terminer, vous écrivez en ce moment un roman dystopique sur une dictature sanitaire dont des extraits ont été mis en scène dans votre documentaire « On achève bien les gros ». Est-ce que vous pouvez nous en parler et est-ce que vous voyez des résonances avec ce que le Covid-19 a amené dans la société et le discours public ?
En fait, moi, ce qui m'a perturbée, j'ai eu du mal à continuer à écrire mon roman là, pendant ces derniers mois parce que j'avais l'impression que ce qui était dystopique quand je l'ai commencé est devenu le présent. Et j'étais un peu paniquée parce que... Enfin, moi, depuis un an, tout ce qui se passe autour du Covid, autour de la pandémie, autour des mesures qui sont prises, autour de... des discours qu'on entend, ça me panique un peu. Et en fait, moi, dans mon roman, mes tabous, l'obésité, c'est devenu un délit, en fait. On a fait, pour le coup, on a vraiment fait des obèses des personnes de seconde zone. Enfin, dans mon roman, les obèses travaillent dans... Ils sont soit enfermés dans des asiles, soit enfermés dans des prisons, soit dans des font des travaux forcés parce que c'est plus des citoyens en fait. On a estimé que c'était plus des citoyens. Et en fait, enfin, moi j'ai eu l'impression toute cette année-là qui vient de s'écouler que la réalité en fait était allait au-delà et me faisait bien plus peur que ce que j'écrivais parce qu'on s'est retrouvé avec des discours où il y avait des chroniqueurs à la télé qui expliquaient aux gens qu'il fallait absolument pas qu'ils sortent, notamment aux fragiles. Enfin, il y avait des gens qui étaient prêts à sacrifier les fragiles. Hein. Enfin, c'était assez magnifique. Et à côté de ça, on avait des maniaques de l'autorité qui justement pour notre bien-être et notre santé, enfin, préféraient nous enfermer à vie que nous laisser respirer.
Mais en tout cas, voilà, cet entretien s'achève sur ces mots. Merci beaucoup, Gabrielle Dédier, d'avoir rejoint les Contrariantes aujourd'hui. C'était vraiment très instructif et très original comme conversation. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs dans 2 semaines pour le prochain numéro. C'était Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté, présenté par le magazine Le Point. À retrouver toutes les 2 semaines sur lepoint.fr, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Google Podcast. Le Point.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.